former Instagram et Facebook.
Merci.
Maintenant, ça sort pas mal, donc...
Amateur, quand même. Vous êtes des pros, ouais.
Je m'appelle Julien, 18, 20 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Rien. Je joue, principalement.
Est-ce que vous pensez être dépendant de cette activité?
Non, pas particulièrement.
Bonjour à tous. Imaginez un monde où vos comportements seraient programmés sans que vous vous en aperceviez. Un monde où les entreprises évalueraient vos émotions pour mieux vendre leurs produits. Un monde où l'exploitation de vos likes sur les réseaux sociaux serait utilisée à des fins politiques. Ce monde, c'est le nôtre. Aujourd'hui, des dizaines de millions de Français utilisent Facebook, Instagram ou Snapchat. Et il faut bien le dire, nous sommes pour beaucoup devenus complètement accros à cet écosystème numérique. Mais échanger à distance avec nos amis ou nos proches, jouer en ligne avec des inconnus, se paye très cher car nous acceptons de céder nos données, nos photos, notre temps et parfois notre intimité. Alors qu'en mai prochain, l'Union européenne, consciente du problème, adoptera une loi très attendue sur la protection des données personnelles, une nouvelle alerte nous vient cette fois d'un ancien haut dirigeant de Facebook. Nous avons créé, dit-il, un outil qui peut détruire le fonctionnement de la société. Hyper connecté, hyper aliéné, c'est un reportage de Thibault Lefebvre.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Bonjour! Alors ça va sentir la tartiflette, hein. Ma fille, elle mange, elle avait vraiment trop faim. Donc bonjour, enchantée, c'est Céline.
Thibaut, enchantée. Bonjour les enfants.
Bonjour.
Bon appétit, qu'est-ce que tu manges?
De la tartiflette.
Comment tu t'appelles?
Louane.
Tu t'appelles Louane? Et toi, comment tu t'appelles?
Comment tu t'appelles?
Oh, faut pas t'embêter, hein. T'es sur la tablette, faut pas t'embêter. Tu viens de mettre un coup de... C'est un déjeuner familial, un déjeuner dominical. À table, Louane, 8 ans, Malo, 2 ans et demi, et leur maman, Céline. Et trois écrans allumés, la télévision en fond, un téléphone et une tablette. Ton petit frère est parti se coucher?
Oui.
Tu t'es saisi de la tablette?
Oui. Bah parce que le portable de maman, il est cassé, donc du coup c'est pas pratique, on voit rien.
Tu disais, ma maman, elle regarde tout le temps son portable, c'est ça que tu disais?
Bah d'ailleurs, on peut dire elle regarde quasiment tout le temps son portable à table.
Raconte-nous comment ça se passe.
Bah mon papa, il râle parce que maman, elle est toujours sur son téléphone. Et parfois, je cache le téléphone de maman pour pas qu'elle soit sur son téléphone à table. Parce que c'est pas bien.
Pourquoi c'est pas bien?
Bah, c'est pas poli.
De temps en temps, je sais que je me fais un peu rouspéter, comme on dit, parce que j'ai tendance à prendre souvent mon smartphone à table, notamment.
Qui c'est qui vous rouspète?
C'est mon conjoint et ma fille qui se fait un malin plaisir de le dire à son papa. Voilà.
Votre fille, Louane, qui est à côté de nous, nous dit « c'est pas poli ».
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai et je pense que c'est un gros défaut et c'est instantané, quoi. C'est vrai que si je passe à table, je vais souvent aller me connecter et regarder un peu ce qui se passe sur Internet, quoi, en fait.
Quand on est arrivé,
ouais.
Tout à l'heure, Malo était sur la tablette. On a glissé discrètement le micro pour lui poser quelques questions, on a eu l'impression de l'embêter.
Oui, concrètement, c'était un peu ça. Hein. Donc, effectivement, il est... alors lui, par contre, c'est vrai qu'il est indélogeable. Là encore, aujourd'hui, je pense qu'il est peut-être un peu plus accroché sur la tablette que Louane.
On l'entendait pleurer?
Voilà.
C'est parce qu'on lui a retiré la tablette?
Bah, notamment, là, quand je l'ai mis pour aller se coucher, comment il m'a dit je veux la tablette. Et je dis, non, tu vas faire dodo et puis on verra plus tard. Mais là... Bon, il a déjà pas mal regardé, donc cet après-midi, on fera certainement autre chose. Donc après, il faut vraiment que ça reste aussi quand même occasionnel, parce qu'après, il ne faut pas que ce soit toute la journée vraiment que la tablette. Après, si on l'occupe à autre chose, il fera autre chose. Mais c'est vrai que s'il voit la tablette ici, il va vouloir regarder quelque chose sur la tablette. Après, je pense que j'ai des amis aujourd'hui qui sont contre ça, qui vont dire bah, « Tiens, un enfant en dessous de 3 ans, il ne doit pas utiliser de tablette ». Oui, enfin après, moi je suis pas forcément d'accord. Après, il y a juste une limite à avoir pour pas qu'il utilise non plus ça toute la journée, par exemple. Après, faut pas passer dans l'extrême.
Vous, Céline, c'est vous la plus addicte au téléphone portable dans la famille?
Oui, ça c'est sûr, je pense que oui. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone, tout le temps?
Bah, qu'est-ce que je fais tout le temps? Donc, je vais sur Facebook, voilà. Donc, je vais également sur Instagram. Je vais aussi sur les sites par rapport à mon grand-père sur Familéo. Voir la météo, voir mes mails. Hein, je check mes mails tous les matins. Voilà, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Vous allez me dire demain si je dois partir sur une île déserte entre une télé et un smartphone, je vais prendre un smartphone en fait. Je vais pas prendre la télé ou je suis vraiment branchée internet en fait. Je pense par rapport à mon métier professionnel aussi de base. Donc
vous êtes commerciale.
Voilà, et dans la communication à la base, donc forcément internet, je l'utilise énormément en fait.
Vous pensez prendre votre téléphone portable combien de fois par jour?
Je saurais même pas vous dire, tellement c'est important. J'en ai aucune idée parce que même demain, je vais être à un feu rouge, je vais prendre mon téléphone. C'est plus fort que moi en fait. Je pense que je me rends même plus compte en fait du nombre de fois en fait où je vais pouvoir le prendre. Je suis incapable de vous dire en fait.
Louane, votre fille de 8 ans qui est derrière nous, au moment où je vous ai posé la question, a fait « Pourquoi ?»
Parce qu'effectivement, elle sait que je le prends constamment, en fait. Que je prends constamment mon téléphone et si je ne l'ai pas ou si j'ai plus de batterie, c'est tout un scandale parce que « Ah, j'ai plus de batterie, mince !» Enfin, voilà, c'est ça, en fait. C'est comme une drogue, en fait. Hein.
Par exemple, hier soir, je l'ai caché derrière le Thermomix.
C'est l'heure de la pause devant le lycée Guistot. Nous sommes dans le centre-ville de Nantes. Ambiance, cigarettes et téléphone mobile.
Bonjour jeunes gens. Je cherche des lycéens ou des collégiens qui utilisent Snapchat.
Interception sur France Inter.
Est-ce que téléphone portable en main, vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne?
Bon, déjà, il faut une connexion. Du coup, soit on a la 4G, soit la Wi-Fi quand on est chez nous. J'ai de la chance, j'ai de la 4G un peu. Et du coup, par exemple, là, on a un bouton. Et si on reste appuyé, ça va faire une vidéo. Si on appuie qu'une fois, ça va faire une photo, par exemple. Il y a le mode selfie ou de l'autre côté pour voir la vidéo par là. Et du coup, là, ensuite, tu peux mettre du texte, des images avec un crayon si tu sais dessiner. Après, voilà. Et tu l'envoies à ton répertoire, Sacha, qui est là, par exemple. Hop, et du coup, c'est envoyé et il va le recevoir normalement.
À côté du nom de chacun de vos interlocuteurs, vous avez un chiffre, un nombre, ouais. Et des dessins, des petites flammes.
Alors, les flammes, comment on explique ça?
La durée de jour où on se parle, par exemple, là, ça fait 58 jours que tous les jours, ils se parlent, ils s'envoient une photo, etc.
Une photo par jour. Et si on ne le fait pas pendant un jour, ça se supprime.
À quoi ça sert d'avoir des flammes?
Rien. Concrètement, ça sert à rien. Ça a aucun but. Mais c'est juste. Il y a une petite compétition dans le lycée. Enfin, une compétition, c'est beaucoup dire quand même. Il y en a, ils s'en foutent. Du coup, ils ont pas de flammes et ça leur convient. Moi, je m'en fiche un peu, mais je préfère les garder tant que je les ai.
Après, on bat des records. Hein. J'en ai 585. Moi, je bats des records. Hein. Je vous jure. Donc, ça fait 585 jours que je parle à la même personne.
Vous pouvez me montrer?
Oui, si vous voulez. J'ai mis des petits dinosaures à place des flammes, mais c'est ça.
Donc, avec une Juliette X, vous avez reçu à 7h26 le dernier message. Voilà. Et ça fait donc 585 jours que vous communiquez avec elle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
C'est vrai que c'est un peu stupide, mais c'est drôle de voir, d'atteindre par exemple un an où on se parle tous les jours, choses comme ça. C'est symbolique un peu pour se dire que depuis un an on se connaît ou choses comme ça. Et voilà.
Puis après, c'est pas non plus une corvée. Quand t'as 5 minutes chez toi, tu fais une photo vite faite et après tu l'envoies à tous ceux que t'as tes flammes et c'est bon, c'est fait. Hein. Pas besoin de plus.
Et qu'est-ce qui se passe quand vous perdez vos flammes?
Je les ai déjà perdus et concrètement rien.
On recommence si jamais on a envie de continuer à parler avec la personne, mais sinon on arrête et puis voilà, c'est tout.
Est-ce que vous avez l'impression que Snapchat crée un système de fidélisation qui est plus addictif que d'autres applications comme Instagram, Facebook ?
Je trouve ça intelligent de la part des créateurs parce que du coup on est obligé de se connecter une fois tous les jours et du coup on jette un peu un œil et finalement on reste 15 minutes, 10 minutes, un peu plus et tout.
Nous avons rendez-vous dans un Fab Lab à Paris, c'est un lieu de création partagée où travaillent Laurent Salard et les sociologues et spécialistes des usages numériques.
Les adolescents que nous avons rencontrés ne jurent que par les relations interpersonnelles qu'ils entretiennent grâce à un système de récompense matérialisé par des flammes.
Alors bon, aujourd'hui, c'est ça, c'est les nouvelles fonctionnalités de Snapchat sont tournées autour de la flamme. Donc il y a un ensemble en fait d'emojis qui sont utilisés. Bon, un classement en fait des interactions. Et donc quand on obtient une flamme, l'emoji flamme, c'est qu'on a justement interagi en continu avec justement sa meilleure amie ou son amoureux ou son amoureuse. Le fait que par exemple quand on n'a pas interagi en continu, on peut perdre la flamme. Et donc là, vous avez un petit sablier qui vous est notifié, qui montre que finalement si vous continuez à faire silence, bien vous allez perdre une flamme et donc vous allez perdre le lien en fait avec votre interlocuteur. Donc on voit bien cette surcouche en fait qu'amènent les applications dans des liens sociaux qui existent par ailleurs, mais que voilà, qui vont contribuer à modeler, à catalyser, à dramatiser, à mettre en scène. Et c'est ce qui plaît énormément en fait dans Snapchat, c'est toutes ces dimensions de mise en scène, de dramaturgie. C'est vraiment ce que les plus jeunes appellent le drama, quoi, le full drama. C'est que ça met de la mise en scène, ça met du drame, ça met du suspense, ça met du sel dans les relations.
Jusqu'à se sentir contraint de communiquer.
Il y a vraiment cette idée qu'en effet, la flamme peut être une tyrannie parce que ça nous oblige à interagir, donc à passer du temps sur les écrans. Et en même temps, c'est pris très au sérieux par les enfants puisque c'est la grammaire de leur lien aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, il y a tout un ensemble de relations sociales qui sont structurées par justement cette fonctionnalité de la flamme. Par exemple, on me racontait l'autre fois, c'était un lycéen de 19 ans qui me disait « Au bout de 20 flammes, tu peux commencer à gérer la meuf ». Et donc, demander des nudes, etc. Donc, on voit vraiment à quel point...
Des nudes.
Les nudes, c'est des photos de nus, en fait. De parties dénudées, voilà, de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice.
À 20 flammes, ouais. On peut avoir des photos du corps nu de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice.
L'idée, voilà, c'est qu'on peut commencer, en effet, à avoir un type d'interaction de plus en plus intime, puisque la flamme, justement, on continue, les interactions continuent, voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une métrique du lien social qui est vraiment fournie par l'application et qui va avoir, en effet, des effets sur le type d'interaction, le degré d'intimité qui peut, finalement, se nouer entre deux partenaires.
Je m'appelle Audrey, j'ai bientôt 38 ans, mais faut pas trop le dire. J'ai un blog depuis plus de 10 ans maintenant, et je bosse dans les réseaux sociaux, je vis réseaux sociaux, je suis un peu trop accro aux réseaux sociaux.
C'est donc le matin chez vous, Audrey. Sous vos yeux, votre smartphone à côté de la tasse de café. Est-ce que vous pouvez l'allumer ?
Alors, bon, je n'ai que 63 mails, donc ça va. Et après, j'ai, on va dire, 5 et 17, 22 messages privés sur Instagram. C'est rigolo parce que c'est des gens qui nous écrivent qu'on n'a jamais rencontrés. Et pourtant, on a l'impression qu'ils nous connaissent. Enfin, ils nous connaissent parce qu'on partage notre vie typiquement sur Instagram. Bon, je partage pas tout, mais c'est vrai que j'ai annoncé ma grossesse, j'ai annoncé quand je me suis mariée l'année dernière, etc. Et j'ai reçu des messages... hyper bienveillant, hyper gentil, de filles qui me disaient « je te suis depuis hyper longtemps, je suis tellement heureuse pour vous ». Enfin, voilà. On a l'impression que c'est des amis. En fait, j'ai même reçu des messages hyper étranges de... Enfin, en gros, de filles qui me posaient des questions que même des amis à moi ou des proches, ma sœur ou quoi que ce soit, ne m'auraient pas posées. Genre, est-ce que vous avez du mal à faire un enfant? En général, je réponds pas, parce que je trouve que c'est un peu trop... Là, pour le coup, ça rentre trop dans l'intimité, etc. Mais c'est ce que je dis à mon mari. Je dis, c'est quand même bizarre que ces filles que je ne connais pas osent... Moi, j'oserais jamais demander. C'est comme on croise quelqu'un dans la rue... qu'on ne connaît absolument pas, on va pas lui poser une question hyper personnelle sur sa vie. Mais parce qu'il y a ce... Aussi, c'est de... Enfin, après, ça vient des deux côtés. C'est nous, on partage notre quotidien, notre... Enfin, voilà, on en dit peut-être parfois un peu trop sur notre vie, et les gens se sentent... Enfin, ils sentent que la porte est ouverte et ils y vont, quoi.
On est sur votre compte Instagram, un peu moins de 100 000 followers, abonnés.
Oui.
Des photos de vous, enceinte, de profil.
Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est que je... Donc, cette photo, je l'ai postée il y a 15 jours. Ouais. Et en fait, c'est que ça faisait 2 mois que je ne postais plus rien parce que j'avais peur que ça se voit. Et je me dis, il faut... Enfin, à un moment, il faut l'annoncer. C'est horrible de dire il faut. Mais en fait, j'ai été hyper soulagée de me dire, bon, bah, ça y est. Comme ça, maintenant, je peux continuer à poster des photos de moi, même si on voit un peu de ventre, c'est pas grave. C'est bizarre. Hein.
vous sentiez obligée à un moment d'annoncer à votre audience?
Mais en fait, pour moi. Je veux dire, pour moi, pour continuer à poster ce que j'avais envie de poster quand j'avais envie de le poster. Parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça serait... Enfin, là, ça commençait à vraiment se voir et du coup, ça devenait compliqué à cacher. Mais ouais, il y a trop de photos de moi.
C'est compliqué d'être populaire.
Il faut se préserver aussi un petit peu, je pense.
On vous sent gêné par rapport à cette...
Mais c'est pour ça que je veux pas faire de mon blog mon métier, parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de la vraie vie, quoi.
Est-ce que vous pourriez arrêter?
Comme ça, du jour au lendemain? Je sais pas. Chaque chose en son temps. De toute façon, un jour, ça va bien s'arrêter, tout ça. Donc, ça va se tasser avec l'âge, mais il va falloir que ça s'arrête, quand même. Mais oui, on peut arrêter. Il faut arrêter.
Vous pourriez, là, devant nous, fermer votre compte Instagram?
Alors non. Il faut quand même pas me pousser trop loin. Je peux... Non. Faut pas déconner quand même.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
L'hyperconnexion est-elle une drogue? Oui, pour l'OMS, qui s'apprête par exemple à intégrer dans la classification internationale des maladies les troubles aux jeux vidéo. Des médecins et des psychiatres constatent depuis bien longtemps le même phénomène, et notamment pour les jeux en ligne. C'est le cas du docteur Bruno Rocher. Il suit au CHU de Nantes un peu plus d'une soixantaine de joueurs.
À partir de quand on peut parler d'usage déraisonné de jeux vidéo?
Un jeu vidéo problématique ou une addiction problématique, mais là pour les jeux vidéo ça a été décrit comme tel, le deviendra lorsque le jeu aura une ampleur tellement importante qu'elle générera une souffrance pour l'individu et son entourage le plus proche, qu'elle empêchera le joueur de poursuivre ses activités et que le joueur ne sera pas en capacité de rétrocéder ou de limiter ses activités de jeu malgré l'identification ou la perception d'utilisation problématique qui gêne son développement courant.
Je m'appelle Julien, 18 ans, 20 ans.
Pardon, je sais ce qu'à dire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Rien. Je joue principalement depuis maintenant, ça va faire 12 ans à peu près. Moi, je commence à 8 ans à peu près.
La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était le 9 janvier. En sachant que on s'était vus tous les deux, votre maman était dans la salle d'attente. J'avais noté que vous aviez un magnifique t-shirt Tetris. Je dis juste ça pour dire que celui-là, je l'avais vu sur la consultation d'avant. Depuis, donc, on se rencontre régulièrement, à peu près tous les mois et demi. Vous veniez de prendre des fonctions d'administrateur réseau sur Minecraft. Donc ça, on va en recoser probablement. Sauf si ça s'est pas bien passé. Racontez-moi.
Problème avec le deuxième administrateur réseau. Donc, décidé de quitter le staff.
D'accord.
Du coup, le deuxième de mes réseaux, qui était un ancien ami, ne me parle plus, du coup.
D'accord.
Parce que j'ai quitté le staff.
Ok. C'était quoi le souci, à la base, qui a créé le...
Le souci, c'est que lui était en cours et moi non. Mm-hmm. Je passais les trois quarts du temps sur le serveur, donc en fait, les trois quarts du temps, c'est moi qui gérais tout.
D'accord.
Et après, j'avais la réflexion du genre, c'est moi qui fais tout sur le serveur. Vu que t'as arrêté l'école, je suis plus intelligent. Ce genre de réflexion qui m'a pas forcément plu.
D'accord.
Il ne me parle plus, il m'a bloqué, il a récupéré le serveur et la communauté, et puis voilà. J'ai fait, bah, tant pis.
Ouais, tant pis, c'est aussi simple que ça, ou ça vous a...
Ça m'a un petit peu embêté au début, parce que, enfin, je veux dire, la communauté, c'est moi et un ami qui l'avons ramené en jouant direct sur Internet, donc, à la base, c'était ma communauté, c'était mes viewers, c'était... J'ai fait, mais bon, après, puis Minecraft, ça commence un petit peu à m'enlacer, parce que, enfin, ça fait maintenant bien 6 ans que j'y joue. Ouais. Je me doutais que ça finirait par arriver, mais bon.
Julien évoque ses relations avec son audimat, ses viewers, comme il les appelle. Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que c'est important dans cette logique de dépendance au jeu, à l'écran, cette interaction permanente avec des spectateurs virtuels?
Ouais, alors il y a un double mouvement là-dedans. C'est effectivement une espèce de dépendance, qu'on dirait narcissique, à être reconnu, à être apprécié, viewé, perçu par l'ensemble d'une communauté plus ou moins à distance de celui qui se donne au jeu. Donc c'est une question de reconnaissance sociale sur l'Internet qu'on repère aussi dans d'autres phénomènes numériques que sont les réseaux sociaux ou d'autres choses comme ça. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième étant, pour les histoires de jeux vidéo, le fait que le jeu vidéo se pratique souvent en guilde ou en groupe de joueurs qui se connaissent et qui se reconnaissent. Et que finalement, il y a une espèce de dépendance au groupe qui est présente, mais qui peut devenir très forte dans ces notions-là. Et très forte et surtout peu critiquable pour des patients qui n'ont, ou des individus, ou qui deviennent pour le coup patients, qui n'ont que ce type de relation finalement à leur disposition de compétences sociales.
Est-ce que plus globalement, il y a une dépendance, il y a un mal-être qui est lié à l'hyperconnexion?
Moi, je vous ai accueilli sur la thématique jeux vidéo excessif et avec le jeu vidéo qui prend trop de place dans le cursus d'un individu et cet envahissement du quotidien de quelqu'un, qu'on va dire addiction ou usage excessif de jeux vidéo. Ça se conjugue à un autre phénomène, qui est le phénomène de l'utilisation d'objets numériques partout, tout le temps, de plus en plus jeunes et de multiples supports. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'addiction aux jeux vidéo que moi je définis pour des patients de 20-25 ans, comme on disait pour Julien tout à l'heure, des utilisations qui sont très massives avec un impact important sur le process de quelqu'un, versus ce qui est des fois malheureusement décrit avec le même terme, et je dis malheureusement dans le sens de la confusion que ça génère, que de l'addiction du petit garçon de 2 ans qui prend l'iPhone de papa-maman et qui va s'en servir d'une manière extrêmement intéressé, avec une appétence pour cet objet tactile, cet objet numérique, cet objet très visuel sur lequel ils pourront aller tripoter l'écran et mettre en place des éléments. Pour moi, ça, c'est pas une addiction, même si on l'utilise d'une manière un petit peu compulsive et un petit peu dérégulée. Mais on n'est pas du tout au même niveau de souffrance qu'est le parcours d'un individu, comme on a pu l'illustrer tout à l'heure par la situation de Julien. Votre maman vous accompagne, elle voulait venir, vous savez ça?
Ma compagne, parce que, enfin, déjà avec les transports. Ouais, avec les transports en commun, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Mais ça la dérange pas plus que ça, et elle aime bien m'accompagner. Donc, ouais. Quand j'ai un rendez-vous, 3/4 du temps, elle m'accompagne. Donc.
Ok. Au revoir, Julien.
Au revoir.
Je vais vous demander de vous présenter, madame, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, je suis la maman de Julien. Voilà, donc. Marianne.
Ça représente quoi dans votre vie, le jeu en ligne?
C'est un passe-temps principalement, parce que ça doit faire maintenant 3-4 ans que je suis déscolarisé.
Pourquoi vous avez arrêté l'école?
Pour phobie scolaire, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Donc on en a conclu avec le médecin, avec l'infirmière de l'école et le médecin du travail, que s'il fallait arrêter, que ça servait à rien de continuer, que ça pouvait empirer. Donc voilà.
Pourquoi êtes-vous suivi par un psychiatre?
Pour dépression.
Vous êtes dépressif?
D'après les médecins, oui. Oui, après, ça dépend des périodes. J'ai envie de dire, c'est comme beaucoup de gens qui sont dépressifs. Il y a des périodes où ça va, il y en a d'autres où ça va pas. Mais oui, en général, oui. Mais bon, quand on est en stream, on évite de le montrer.
Le jeu en ligne, c'est une manière de s'échapper de la vraie vie?
Un petit peu, oui. Ça aide à oublier les problèmes de la vie. Ça change les idées.
Est-ce que vous pensez être dépendant
de cette activité?
Non, pas particulièrement. Après, ça peut aider aussi, je trouve, à la communication. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui est très timide, bah, on l'est peut-être moins forcément sur Internet. Moi, je trouve personnellement que ça aide à la communication.
Quand je vous ai posé la question « Êtes-vous dépendant ?», votre maman, Marianne, qui est à votre gauche, a dit oui de la tête.
Marianne ?
Oui, oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il est dépendant, oui. Parce que c'est vrai que sans ses jeux, c'est quand même un peu dur, hein ? Reconnais-le.
Oui, mais après, ça pourrait être avec n'importe quoi. Ça pourrait être... Oui, il y a une dépendance. Mais après, comme beaucoup de gens qui ont une passion, ils s'en sont dépendants, quoi.
Marianne, votre fils Julien a commencé les jeux vidéo en ligne à l'âge de 8 ans.
Oui, mais c'était minime. C'était pas comme maintenant. Il était scolarisé, il avait des horaires pour aller coucher à partir de telle heure. Donc le soir, il n'y jouait pas. Et des jeux adaptés à son âge. C'était pas n'importe quel jeu, parce qu'on faisait attention, on était vigilant là-dessus.
À quel moment la pratique des jeux vidéo en ligne de Julien a changé?
Quand il a pu être à l'école. Donc il y a 2 ans. C'est là que ça a tout changé, c'est là qu'il a été couché tard. C'est là qu'il a vu complètement à l'envers par rapport... voilà. C'est là que ça a tout changé.
Est-ce qu'aujourd'hui, Julien, vous considérez que vous avez une vie, ouvrez les guillemets, normale?
Tant que notre vie nous plaît, si on est heureux comme ça, si... Je sais pas, si jouer en ligne, on aime bien, que ça nous rend pas mal derrière ou autre, je vois pas pourquoi on le ferait pas.
Marianne, Julien, il a une vie normale?
Pour moi, non, parce que lui, il va coucher tard. Il va coucher 4 heures, 5 heures du soir. Midi, se lève, 1 heure. Donc, pour moi, non, c'est pas une vie normale, pour moi. Il sort pas beaucoup, très peu. Donc, pour moi, oui, c'est quand même à l'envers par rapport à nous.
Vous pouvez encore changer les choses?
Maintenant, ce serait difficile.
Sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter ou sur Instagram, on aime, on commente, on exprime des émotions conscientes, des actions intentionnelles qui sont exploitées par les publicitaires et qui en disent beaucoup sur nos envies, mais sans doute pas encore assez. Une entreprise française a décidé de faire parler ce que nous voulons parfois dissimuler. Elle s'appelle Datacalab et elle propose de saisir les émotions, nos émotions, pour rendre le message des annonceurs encore plus efficace.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Je m'appelle Xavier Fischer, je suis ingénieur de formation. Et en fait, j'ai travaillé dans la détection des émotions aux États-Unis pour une boîte qui s'appelait Emotient. On avait développé des algorithmes qui détectaient les émotions des gens dans les vidéos. Et on a été racheté en fait par Apple en janvier 2016 pour tout ce qui est Face ID, en fait, l'authentification dans le nouveau téléphone. Et
Face ID, l'authentification de visage.
Exactement, pour en fait se loguer et payer avec son visage. En fait, on a 42 muscles qui bougent en permanence sur le visage humain. Depuis les années 70, pas mal de chercheurs, dont Paul Ekman, qui était un de mes anciens collègues chez Emotient, a créé ce code qui s'appelle le Facial Action Coding System, qui liste ces 42 muscles et qui explique le lien entre le mouvement de ces muscles et les émotions. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des bases pour pouvoir en fait entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on fait, pour pouvoir en fait dire, bah, sur ce visage, à ce moment-là, il y a de la joie, ou il y a de la peur, ou il y a de la colère, de façon à pouvoir stocker l'émotion au moment où elle est vécue, sur le visage des gens, mais tout ça de façon anonyme, parce que notre but, c'est pas de garder des vidéos d'individus.
Vous évoquez l'anonymat des utilisateurs, sans que je vous pose la question, vous prenez une précaution particulière à préciser que cette étude est anonyme.
Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des entreprises asiatiques qui développent des algorithmes qui sont à peu près pareils que les nôtres, sauf qu'eux, ils le font pour authentifier les personnes. Et donc, ils arrivent à savoir exactement que Xavier Fischer est en train de marcher dans cette rue-là, à ce moment-là. Et donc, ils vendent ces données à l'État, par exemple, pour établir des scores sur chacun des citoyens, les endroits où ils vont, la fréquentation.
Ce qui pose problème, c'est pas l'outil, c'est l'application.
Exactement. Exactement. L'outil, en fait, il peut faire plein de choses. Notre outil, on pourrait le détourner pour faire d'autres choses. Mais c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est simplement se servir des outils puissants d'intelligence artificielle pour permettre à l'être humain, en fait, de reprendre le contrôle de la machine et d'aller plus loin.
Vous me montrez comment ça marche? Sous nos yeux, 7 émotions sont listées.
Exactement. En fait, c'est les 7 émotions de base du code de Paul Ekman dont je vous parlais tout à l'heure. On a 42 muscles qui bougent en permanence sur le visage et donc on traque la joie, la tristesse, la surprise, la colère, la peur, le dégoût et le contempt en anglais qui se traduit par le mépris, être un peu expectatif dans l'attente. Et donc en fait, notre outil, vu que notre but c'est de stocker l'émotion au moment où elle est vécue, on l'a construit de façon à détecter des micro-expressions. En fait, il faut savoir que vous réagissez pas de la même manière que moi. Un de vos sourires est sûrement plus fort que le mien. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est savoir quelle est la réaction de base d'un individu. Et on prend souvent l'exemple des embouteillages. Si vous êtes venu en voiture, il y a des embouteillages. Si on vous fait regarder une publicité, vous allez être un peu plus en colère, un peu plus stressé de par le fait que vous ayez vécu cette expérience juste avant.
Est-ce que vous comprenez que ce type d'outil puisse faire peur ?
Effectivement, ça interroge parce que c'est l'amalgame de l'intelligence artificielle dont on parlait au début. Mais en même temps, on explique en quoi on les utilise bien et en quoi on ne stocke rien. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas non plus toujours dramatiser un phénomène lorsqu'il est lancé, parce que niveau compétitivité internationale aussi, en Chine, il n'y a rien. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on met la barre entre l'éthique qu'on se met et en même temps le développement commercial. Nous, ce qu'on a développé, c'est des méthodologies. Bon, très légalement, ça s'appelle privacy by design, de façon à construire notre business model autour du respect de la vie privée.
C'est un grand bâtiment juste à côté de la gare de Genève, à l'entrée un container nommé Fab Lab, c'est là où on fabrique tout un tas d'outils liés au numérique, et c'est ici, dans cet espace de coworking qui s'appelle Impact Hub, que travaille l'association personaldata.io.
Mon nom c'est Jérôme Grootenbril, je suis belge vivant en Suisse, diplômé d'école de commerce.
On est sur votre ordinateur, sur le site que vous avez développé qui s'appelle personaldata.io. Qu'est-ce que c'est ?
En fait, c'est un site qu'on a fait dans l'optique des nouvelles règles européennes qui rentrent en vigueur en mai 2018, dont l'idée, c'est de permettre aux gens de reprendre un contrôle plus efficace sur leurs données personnelles. Et on part du principe que les gens vont avoir des droits à partir de mai 2018, mais que c'est trop compliqué si on les laisse seuls pour exercer ces droits. Et donc, on veut amener de la technologie qui aide les gens à exercer ces droits à large échelle sans trop de contraintes administratives.
Cette loi européenne qui sera valable en cours à partir du 26 mai 2018, qu'est-ce qu'elle dit ?
En fait, ça replace l'individu au centre de l'écosystème des données. Donc tout le monde sait que tout le monde génère beaucoup de données. On laisse beaucoup de données dans plein d'entreprises et ça va faire qu'augmenter. Et il y a plein de choses très très bonnes qui peuvent être faites grâce aux données. Mais il y a un manque de transparence et de contrôle possible par les individus. Et donc en fait, cette loi européenne vient un peu replacer l'église au milieu du village dans le Far West de la donnée personnelle qui avait lieu jusqu'à présent. Un des problèmes que cette loi vient résoudre, c'est par exemple le fait que les entreprises vont maintenant être beaucoup plus pénalisées en cas d'infraction à ces règles. On pense que les gens n'ont pas le temps ni parfois la connaissance que pour aller envoyer un email à l'avocat de Facebook et lui réclamer les données personnelles en vertu de tel article de loi. En anglais, qui plus est, etc. C'est un peu injuste d'imposer ces processus-là qui sont très rébarbatifs à des gens. Et donc, ça ne sert à rien de leur dire « vous avez des droits » si on ne leur donne pas des outils pour utiliser ces droits-là. Et on pense que dans ce domaine-là, la technologie peut en fait tout à fait remplir jusqu'à un certain point le rôle d'un avocat.
Comment ça fonctionne ?
C'est un processus d'inscription relativement classique. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est on va demander des informations personnelles. Hein. Il faut bien passer par là aux gens, comme leur carte d'identité ou des documents qui nous permettent de les identifier, vu qu'on doit après les représenter auprès des entreprises. Et une fois qu'on a toutes les informations dont on a besoin, les utilisateurs peuvent nous indiquer leurs souhaits en matière de données. Donc ils choisissent simplement, par exemple, je souhaite de récupérer mes données de Tinder ici. Ils rentrent leur nom, leur prénom, leur identifiant Facebook, parce que ça, c'est ce que Tinder va utiliser pour confirmer l'identité d'un utilisateur. Et une fois que nous, on a toutes ces informations, en fait, on va traduire simplement le clic de l'utilisateur sur Tinder en un message juridique qui va être envoyé à la société Tinder là où il faut.
Une précision, Tinder est une application de rencontre en ligne.
Oui, de rencontre en ligne.
Paul-Olivier Dehaye, vous êtes cofondateur de l'association personaldata.io et vous, en tant que mathématicien, vous avez travaillé sur le recueil de données d'une entreprise particulière qui fait du data mining, de l'exploitation de données à des fins politiques. Cette société s'appelle Cambridge Analytica, c'est une société britannique. Elle fonctionne pour qui et comment ?
Alors elles fonctionnent comme des mercenaires. Leur modus operandi, disons, c'est de retrouver des données personnelles sur un maximum de gens, de plein de sources différentes, mais notamment de Facebook, de Twitter, et puis après de construire des profils psychologiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de la recherche qui a été faite à l'université de Cambridge, qui a montré qu'à partir de juste de Facebook Likes, donc de quel film vous regardez, vous aimez, quels vêtements vous aimez, des choses comme ça, quelle radio vous écoutez peut-être, on peut arriver à prédire ces composantes psychologiques mieux qu'un voisin, un collègue, un ami, un conjoint, etc. Et on se rend compte que vraiment, si on partage beaucoup comme ça, on s'ouvre à la possibilité que d'autres comprennent mieux nos propres travers psychologiques que nous-mêmes.
Parmi les clients de Cambridge Analytica, le camp pro-Brexit est Donald Trump. Si on va vite, on a envie de conclure que ça fonctionne.
Oui, je crois qu'il faut être prudent dans les conclusions, là. Ça marche peut-être pas de la même manière, avec la même efficacité dans le domaine commercial que dans le domaine politique. Mais oui, ils ont des clients qui ont eu des succès électoraux, oui. Cette nouvelle vision de la politique est beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus individuelle et beaucoup plus manipulatrice dans un sens. C'est très difficile d'avoir un débat public sur des problèmes de société quand chacun voit quelque chose de différent, quand chacun reçoit du feedback sur la discussion publique qui est lui-même biaisée. D'ailleurs, le plus intéressant là-dessus, c'est de voir comment les patrons de grandes entreprises, des mauvais acteurs dans un sens du web, des Google, des Facebook et tout, parlent à leurs enfants de l'économie qu'ils ont créée, parce qu'ils sont en train d'activement décourager leurs enfants de s'engager dans cette économie. Ils sont en train de leur dire « Je suis un des premiers employés de Facebook, j'ai fait des milliards grâce à cette société, mais je ne veux pas que toi, mon enfant de 12 ans, je ne veux pas que tu utilises cet outil. Parce qu'il crée des addictions, parce qu'il n'est pas bon pour la santé mentale, parce que ceci, parce que cela. Je ne veux pas que tu interagisses avec d'autres via cet outil-là. » Ça, c'est fascinant, dans mon sens.
Est-ce que vous avez conscience que ça peut dépasser ma maman, par exemple, récente utilisatrice de Facebook, qui poste occasionnellement des photos de ses petits-enfants en ligne ?
Alors, je suis content d'annoncer que ma maman, ma propre maman, est utilisatrice de nos services. C'est récent, mais oui, ça la dépasse, mais elle comprend que ça ne devrait pas la dépasser. Elle comprend que quelqu'un doit faire le travail d'explication et doit être clair avec elle sur l'utilisation qui va être faite de ces données. Et elle n'a pas eu cette explication et elle n'est pas contente de ne pas avoir eu cette explication. Elle n'est notamment pas contente qu'on lui ait présenté un nouveau contrat sans aucune possibilité de négocier ou de s'informer vraiment des conséquences de ce contrat.
C'est une réunion de famille par écran interposé. Stéphanie, son mari Daniel et leur fille Maïwen sont à Bain-de-Bretagne. Les deux aînés, Kellig et Julie, sont à Neuchâtel et à Agen.
Coucou, jolie fille.
Là, vous êtes en ligne avec vos deux filles.
Oui, en deux. Ouais, avec les deux, ouais.
Tous ces outils de communication comme WhatsApp, comme Skype, comme les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça change dans votre relation à votre famille ?
Ça évite d'envoyer des colis et des lettres, quoi. Par exemple, maman, on l'a formée à Instagram et Facebook.
Merci.
Maman s'en sort pas mal, donc...
On va dire, hein. Je suis amateur.
On lui apprend encore les subtilités, mais... De quoi ?
Je suis amateur, quand même. Vous êtes des pros, ouais.
Merci, à vous.
De rien.
Bon, je vous fais des bisous toutes les deux. Je vous aime fort, bisous, bisous. Vous aussi, on vous aime, bisous.
Stéphanie, vos filles nous disaient sur Skype que ce sont elles qui vous ont mis sur Facebook.
Quand Julie est partie, donc septembre 2010, c'est vrai que bon, elle m'a expliqué un petit peu. Elle me dit, tu vois, si tu te mets sur Facebook, les petites choses que je partage, eh ben tu pourrais les voir. On pourrait discuter, même si tu n'entends pas ma voix vraiment Facebook, mais tu pourrais partager certaines choses. Et puis après, elle m'a expliqué, voilà, qu'il y avait Messenger, comment ça fonctionnait. Donc bien. Et puis ben les vidéos via Messenger, ce que je fais beaucoup avec Kellig. Et c'est vrai que maintenant, non, je pourrais pas m'en passer.
On peut ouvrir votre profil Facebook ?
Mon profil ? Alors, hop.
Vous avez une notification.
Ouais. Enfin, je vais regarder. Oui, c'est sapeur-pompier de Bain-Bretagne.
Là où vous vivez.
Ouais, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a comme photo sur votre compte
Facebook? Qu'est-ce que j'ai sur une photo? Alors, j'ai des photos de Noël. Mm-hmm. Ça, par exemple, il y a 6 mois, c'est une photo l'été dernier de mon papa avec sa petite chienne que vous allez rencontrer tout à l'heure. Voilà, après, c'est des photos de famille, des photos avec des amis, enfin, des photos, voilà.
Donc, vous envoyez sur Facebook une partie de votre vie familiale.
Ouais, mais je fais attention. Je fais attention quand même à ce que j'envoie. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on est bien d'accord, vous allez avoir des fois des réunions de famille, vous allez faire des petites bêtises. Quand ça reste des grimaces, c'est pas méchant. Mais j'en vois qui postent des photos dans des... les fesses à l'air. Moi, j'en ai déjà vu passer. Franchement, non. Non. C'est dégradant. Voilà. Donc, c'est comme tout. Faut faire attention à ce qu'on met parce que ça peut être vu par énormément de monde. Donc, faut faire attention, quoi.
Ces photos, ces informations, aujourd'hui, appartiennent à Facebook. Vous faites confiance à Facebook?
Confiance, je sais pas, je pourrais dire ça, mais si, quelque part, je fais confiance.
Pour moi, je dis que si. Pour moi, je dis que oui, indirectement, on fait confiance à Facebook. Je veux dire, c'est comme je fais confiance à Renault quand je conduis ma voiture. Donc, je fais confiance à Facebook parce que j'utilise Facebook.
Facebook utilise vos données personnelles à des fins publicitaires.
On ne connaît pas tout ce que fait Facebook, en fin de compte. Facebook, pardon, avec nos noms, nos photos, nos... On n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas cette notion.
En mai prochain, l'Europe, l'Union européenne, va vous permettre de récupérer, si vous le voulez, vos données sur Facebook. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors déjà, pour moi, comment est-ce qu'on récupère ? Voilà, parce que moi, la base de Facebook, elle est sur, en Amérique. Je fais du droit, au lycée. Et on a vu ça sur plusieurs articles de droit et de cours d'arrêt. Par exemple, le droit à l'oubli, pour Facebook, on a déjà eu une demande. C'est carrément impossible parce que toutes les données sont sur la plateforme principale en Amérique. Et c'est quasiment impossible d'avoir le droit à l'oubli.
Vous, Maïwenn, 18 ans, vous ne croyez pas que l'Europe va vous permettre de récupérer vos données sur Facebook?
C'est quasiment impossible. Il y aura toujours des traces quelque part.
Bonjour. Bonjour monsieur.
Mon papa, Yves.
Papa.
Yves et Maggie, vous êtes les parents de Stéphanie et vous êtes des grands-parents, des retraités. Pas très connecté.
Non.
Pas du tout.
Non.
Pas du tout.
Non.
Pas du
Mais je pense que ça va bien quand même. Ça va pas trop mal.
Ça va même très bien.
Tout à l'heure, on a communiqué avec vos petites filles
sur
Skype.
Oui.
Vos petites filles nous disaient utiliser Instagram, Snapchat, Twitter. Votre fille utilise Facebook. Oh. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
On n'a pas été habitués, nous,
avec
tout ça, nous, dans le temps. Moi, j'ai connu, j'ai vu la première télé, moi. Hein. Je me rappelle des voisins, moi, ils disaient, mais Eva, qui est-ce qu'il y a là-dedans? C'est obligé, hein.
On est dépassé par tous les systèmes de communication. Non, ce n'est pas une priorité.
Non, ce qu'on reçoit, là, le petit journal, là, les, comment que ça s'appelle?
La vidéo.
La vidéo, là, c'est très bien.
Familiaux.
Oui, ben, tout ça, une fois par mois, c'est bien.
Qu'est-ce que c'est, Familéo?
C'est un réseau social aussi, hein.
Oui.
Mais sur papier.
Sur papier. Ben oui, on a là.
Vous ne connaissez pas? C'est vous qui ne connaissez pas?
Oh, ça m'étonnerait.
Eh bien, on va vous apprendre.
On va vous faire voir, comment si?
Eh bien, montrez-moi.
Tu l'as par là.
Allez, c'est parti.
Ouais. Alors, forcément, le... Alors,
Familéo, c'est le dernier numéro.
Le dernier numéro, qui sait très bien, on est bien
content. Alors, vous le feuilletez.
Vous avez Facebook sur papier.
Voilà.
Oui. Vous recevez par voie postale les contributions numériques de vos enfants et petits-enfants.
Voilà. Exactement. Exactement.
C'est sur papier.
Et de plus, on sait à quelque chose près quand est-ce qu'on va le recevoir. Alors, je ne vous dis pas comment on surveille la boîte aux lettres.
On reçoit des belles photos, parce qu'on a une là qui voyage quand même, celle qui est à Val d'Isère.
Les petits-enfants aussi.
Et les petits-enfants aussi, là, ils nous ont fait des belles photos.
Il y en a une qui est en Suisse, là, ben, on n'aurait jamais vu tout ça. Sa tante est allée lui rendre visite, là, elles ont fait plein de choses, visite plein de choses, fait des photos. Ils n'ont pas toujours le temps de nous faire voir sur les portables, sur les ordinateurs. Tandis que là, ben, on a notre ordinateur en papier, ben, on le regarde quand on veut. Que voulez-vous de mieux ?
Mais pourquoi vous ne vous inscrivez pas sur un réseau social ?
Non. Oh, je trouve que c'est trop compliqué.
Oh, puis je ne veux surtout pas.
Et puis aussi, il y a une chose, j'ai peur d'y passer trop de temps.
Ah ouais, voilà.
Vous avez peur de rester dépendante d'un réseau social ?
Ouais, d'être prise au piège, de trop m'y intéresser et puis de passer trop de temps.
Pourquoi vous êtes méfiante ?
Ben, j'ai plein d'autres choses à faire.
Ça va très bien comme ça.
Let's play some Tetris, motherfucker.
Hyper connecté, hyper aliéné. C'était un reportage de Thibault Lefebvre. Laurent Macchetti, Hélène Langlois et Yann Frécy ont assuré la prise de son. La réalisation est signée Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. Mixage, Rémi Quincé. Vous pouvez réécouter, bien sûr, cette émission sur franceinter.fr. Bon dimanche et à la semaine prochaine.
Mi forma de vida es el rap, mi movida es el rap, mi querida es el rap, porque entonces yo canto con bases de rap, para que primos también aprendan un poco de rap. No debo encerrarme solo en el rap, debo vivir estilos lejanos del rap, para que el rap sea rap de verdad y no una simple copia barata de rap. Rap estilo, estilo más rap, porque rap para mí es cada vez más de rap, y rap para ti es una mierda de rap, porque nunca se nace sabiendo de rap. Se empieza aprendiendo del rap, porque rap más rap es igual a dos rap, porque puedo fardar, pero solo de rap. Yo llevo sangre en las venas, yo llevo rap. Me inyectaron sobredosis de rap, el virus fue rap y el antídoto rap, mi cabeza solo piensa en rap, hip hop no es lo mismo que rap, no. El rap es mi rap, a callar piezas del puzzle, encajar, vetar la instrumental, variar, innovaros con rap. Pues no es cuestión de edad, verás que clavo estas letras detrás. Mi rap está, quizá querrá intentar marcar un récord rap, porque sigo pensando que vivo pa'l rap. Rapear es lo mío, punto, sigue mi rap con un ritmo del soma bestial. Clavo el rap en el beat y luego especial bonus track, un crack, un ataque que atrapa. Tan solo soy nácar con gafas y cabal, que saca la lacra y las plagas te atrapa, que tapa tus letras y ataca con rap. Ay, ya ni me ves, ya ni me sientes, este es el rap que tus viejos no entienden. Vente, men, a ver mi tetri rap, a ver si lo comprendes.
Amén.
Santificado sea yo mismo, en el ritmo resuelvo y hago logaritmos. Invito y repito este rack escondido, ha dolido mi rap, te mantiene adicto, mi rap queda escrito. Te jode que puedo contigo y también con tus clones. Aprende de errores, te corres, verdad, la edad no me importa, esto solo es rap.